Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Lundi dernier, l'atelier s'est délocalisé au centre Georges Pompidou à Paris pour enregistrer la dernière conférence du cycle culture numérique de la Bibliothèque publique d'information. Le thème de la soirée était anatomie d'une rencontre en ligne. Nos invités étaient Stéphane Rose, journaliste et écrivain, auteur de misèresexuelles.com, Marie Bergström, qui est sociologue et qui termine une thèse sur les sites de rencontres francophones, et le philosophe Marc Parmentier.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous, vous, vous.
Bonjour Marc Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Charles de Gaulle à Lille, c'est-à-dire Lille 3, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous êtes l'auteur de « Philosophie des sites de rencontres » qui est paru en 2012 aux éditions Ellipse. Je sais que vous avez pris des notes, que vous avez écouté attentivement tout ce qui s'est dit. Est-ce que d'abord vous souhaitez dire un mot sur ce que vous avez entendu, réagir ?
Oui, c'est-à-dire que... Mais d'abord, moi, je dois dire, j'ai pas du tout adopté la méthode de ma voisine, qui est une méthode très sérieuse, scientifique, de sociologue. J'ai plutôt adopté la méthode sauvage
de
Stéphane Rose. C'est-à-dire que ce dont ont parlé mes collègues, c'est la partie émergée, la partie visible, concrète. C'est-à-dire, Internet utilisé simplement comme un outil, qui, en gros, permet de fixer un rendez-vous. Alors, si j'ai adopté le vocabulaire
de Stéphane?
Oui, je dirais un rencard. Mais bon, je vais garder un vocabulaire correct. Donc, voilà, on pense... d'ailleurs, c'est ce que veulent faire croire les sites, hein, c'est-à-dire que c'est un formidable outil d'accélération du temps, d'accélération des histoires, et ça permet très rapidement de fixer le vrai départ, le vrai point de départ... qui finalement serait le rendez-vous avec une issue favorable ou négative, mais enfin bon, on s'attarde pas sur tout ce qu'il y a avant le rendez-vous. Et moi, au contraire, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans cette phase que j'appelle virtuelle, mais enfin bon, c'est un mot qui est passé dans l'usage et qu'on retrouve maintenant dans la dénomination de ces rencontres en ligne, mais aussi ce qui se passe.
Et avec des sous-entendus qui, vous le précisez tout de suite, sont souvent faux, c'est-à-dire qu'on oppose virtuel.
On a l'habitude de considérer que ce qui est virtuel, c'est un préalable, enfin c'est pas vraiment réel, ou c'est quand même moins bien, c'est de moins bonne qualité que si c'était pour du vrai, enfin dans la vie réelle. Or, moi, j'ai pris le parti exactement contraire. C'est-à-dire, il me semble que la dimension virtuelle, elle fait partie intégrante de la réalité, et a fortiori de la réalité des relations sexuelles et des relations amoureuses.
Mais à quel moment, en tant que philosophe, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, à quel moment vous vous dites, je veux bosser sur ça, et comment vous procédez? Vous dites que vous ne l'expliquez pas. Comment vous procédez?
Ah, j'ai pas expliqué dans le livre, vous pensez bien que je vais pas l'expliquer comme ça tout de suite. C'est-à-dire... Non, mais c'est pas en tant que philosophe que j'ai eu cette idée, parce que c'est vraiment en tant qu'homme, parce que j'ai une ancienne amie qui un jour, à faveur d'une conversation, m'a dit bah écoute, voilà, je suis tombée amoureuse. Bah, je dis, bah, c'est bien, hein, tant mieux pour toi. Et elle m'a dit, oui, je suis tombée amoureuse sur Internet. Tu veux dire que t'as fixé un rendez-vous avec quelqu'un sur Internet, et puis vous vous êtes vu, et puis vous vous êtes plus, et puis voilà. Elle dit, non, pas du tout, la personne en question habite en Bolivie, à 7000 km, on s'est jamais vu, mais je suis red dingue amoureuse. Alors là, je dis, écoute, ma fille, tu débloques complètement. C'est absolument pas possible.
C'est ce qu'on appelle un amour virtuel, enfin un amour
exactement.
En ligne, un amour
alors,
virtuel.
Moi, j'étais vraiment convaincu que c'était pas possible. Et le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire, elle m'a convaincu que c'était tout à fait possible. Non seulement que c'était tout à fait possible, mais que les affects, alors les affects positifs ou négatifs, hein, parce que c'est certain qu'on peut tomber tout à fait amoureuse, mais on peut aussi tomber au 36e dessous de la dépression, parce que les affects sont très intenses. Et donc, le point de départ, c'est comment est-il possible qu'à distance, sans les médiateurs habituels de la rencontre amoureuse sexuelle, c'est-à-dire la présence, tous les signes physiques, voire pour ne pas dire biologiques, qui s'émettent et qui se reçoivent quand deux personnes sont proches l'une de l'autre, en l'absence de tout ça, comment était-il possible que des sentiments aussi forts que Des sentiments sexuels, des sensations sexuelles, du désir sexuel, et puis même le sentiment amoureux. Comment
des relations sexuelles, voilà, même.
Comment c'était possible que ça ait lieu mais tout ça, c'est des choses qui se passent indépendamment d'une rencontre physique, parce qu'à la limite, lorsqu'il y a un rendez-vous et lorsqu'il y a une rencontre physique, là, on rejoint la réalité, on rejoint finalement des relations normales. Donc, ce qui est tout à fait original, à mon avis, en tout cas, c'est ceux que j'ai étudiés, c'est toute la phase antérieure et de la phase qui, quelquefois, demeure virtuelle, parce que certains refusent l'idée même d'un rendez-vous, ou alors se dérobent et refusent, enfin, la perspective d'une rencontre qui pourrait être et qui est toujours, de toute façon, décevante. Parce que, à partir du moment où vous êtes entré en contact avec quelqu'un à distance, il y a de très fortes chances que la rencontre réelle soit une douche froide.
Alors, je vais vous citer un petit peu pour donner une idée de la teneur de ce que vous écrivez et l'esprit de votre ouvrage. Globalement, vous tentez, en gros, de soumettre cette réalité nouvelle à la tradition philosophique, sur l'amour, sur la morale, sur l'identité, avec plusieurs difficultés que vous soulignez dès le début. Je vais vous citer. À titre d'exemple, ça c'est vous qui dites ça, notre question ne doit pas être seulement une personne mariée peut-elle entretenir des relations virtuelles avec une tierce personne, mais qu'est-ce qu'un adultère virtuel ? Vous ajoutez, autre questionnement, le site mythique propulse l'internaute dans une vaste circulation de désirs en quête d'objets. Comment un désir peut-il ne pas avoir d'objet ? Dans l'expérience ordinaire, c'est le surgissement d'un objet inopinément désirable, un passant, une passante qui le fait naître. Ici, tout semble fonctionner à l'envers. Ça
oui.
part mal, hein.
Alors, mais en même temps, ça rejoint des questions tout à fait classiques, tout à fait habituelles d'interrogation en philo. Hein, parce que la question du désir, c'est pas maintenant qu'on la découvre, l'objet du désir. Alors, le caractère éventuellement justement virtuel du désir, mais même du désir, entre guillemets, normal dans la vie quotidienne. Bon, ça, c'est des choses qui ont été mises en évidence depuis le XVIIe siècle, et puis ces fameux traités des passions, on appelait ça comme ça. Ensuite, alors, il y a la question du désir, l'objet du désir, la nature bizarre hein, de l'objet du désir. Ensuite, il y a la question d'autrui. Et là, on a vraiment quelque chose de complètement nouveau, parce que on a, en quelque sorte, une rencontre brute hein, avec autrui, un autrui dont on ne sait strictement rien, ce qui ne se présente jamais dans la vie courante.
C'est-à-dire un truc qui peut même être un robot, hein. Ou
éventuellement, on n'est même pas sûr. Alors, on n'est pas sûr qu'il existe. On n'est pas sûr que ce soit un employé, que ce soit pas un employé ou une employée du site lui-même. Si c'est quelqu'un qui dit être une femme, on n'est pas sûr que c'est pas un homme, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une sorte d'état de nature.
L'état de nature, c'est l'homme avant la civilisation. Quoi.
Exactement, parce qu'il n'y a plus de convention là. Hein, il me semble, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de convention. Toutes les conventions sociales, la politesse, etc., les convenances, tout ce qui nous protège, tout ce qui pacifie les relations et qui est dû évidemment à la culture, au développement de la civilisation, tout ça n'existe plus sur un site. On a deux personnes qui peuvent se dire absolument tout. Il n'y a pas de limite et donc il y a une sorte de brutalité, mais ça veut dire comment je fais pour rentrer en contact avec à partir de zéro vraiment avec quelqu'un. Ça c'est une question philosophique. Et puis alors troisième question, c'est qui je suis moi au fond, qui je suis moi, parce que sur un site, je peux jouer avec autrui, mais je peux aussi jouer avec moi-même. Je peux très bien dire que je suis un homme alors que je suis une femme. Je peux très bien dire que je suis jeune alors que je suis vieux, etc., etc. Donc peut-être que ça veut dire il y a peut-être une partie féminine de ma personnalité qui trouve là un moyen de s'exprimer.
On va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pauline Mocor a tourné trois témoignages. Premier témoignage, Mathieu a 34 ans. Il travaille dans le domaine culturel. Il a utilisé le site Mythique pour la première fois en 2002. Il avait alors 23 ans et travaillait dans une région de France reculée, dans une petite ville. Il souhaitait évidemment rencontrer des gens d'un autre univers que le sien. Puis, il a vécu quelques années en couple, il est passé à autre chose, et c'est à la suite d'une rupture en 2013 qu'il s'est inscrit à nouveau sur des sites de rencontres. À l'époque 4, Badou, Mythique, Adopte un mec et Attractive World. Il utilise ces sites jusqu'en avril 2014, date où il rencontre une femme hors ligne, sans l'aide de ces sites. En moyenne, il dépensait donc pendant toute la période 90€ par mois pour les 4 sites. Et dans le témoignage, il raconte l'usage qu'il a fait d'Adopte un mec, le site sur lequel il s'est senti le plus à son aise.
J'ai jamais rencontré autant de gens différents. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec autant de femmes différentes du reste de ma vie jusqu'à ces dates-là, quoi. C'est vraiment accessible. Après, c'est ultra chronophage. si vous voulez avoir des réponses, si c'était l'intérêt, il faut quand même prendre un peu de temps, justement, d'étudier cette fiche, et on se met à développer un peu un process de travail, quasiment. Une fois que vous envoyez le charme, au début, ça va assez vite, vous recevez 2-3 réponses positives, vous envoyez quelques mails, mais après, quand vous en avez 20-30, il faut commencer à s'organiser. Donc moi, j'avais des mails quasiment types, en fait, que j'adaptais en fonction des profils. Je me suis mis à y passer du temps, y prendre du temps, etc. Et notamment quand vous avez un rendez-vous le soir, et donc il faut relire les échanges que vous avez eus avec cette personne. Et après, ça demande une organisation de planning.
Mais pourquoi ça vous plaisait, ça vous excitait?
Bah déjà, il y avait plein de discussions que j'avais pas l'habitude d'avoir. Je rencontrais plein de profils, en tout cas, que je rencontrerais pas comme ça naturellement dans la vie de tous les jours. Donc ça, vraiment, je trouvais ça intéressant. Et puis oui, après, vous envoyez un message, vous discutez avec quelqu'un, vous envoyez des questions, vous répondez un moment, et ça suscite quand même un intérêt, quoi. Et après, l'intérêt, c'est quand même de voir les gens. Et après, c'est devenu un jeu. Il y a eu des mois où j'avais un rendez-vous différent tous les soirs, quoi. Après, vous êtes pris au jeu, en fait. C'est plus compliqué d'en sortir. Après, c'est devenu un truc assez addictif. Moi, j'y suis vraiment allé pour rencontrer d'autres gens, voir autre chose. Et puis, à un moment où j'allais pas bien et où ce truc est devenu une occupation, quoi.
Ça vous a fait du bien?
Ouais, je pense. En tout cas, ça m'occupait. Bah, après, non. Enfin, en fait, non, je crois que ça m'a pas fait de bien. Non. Parce que multiplier les rencontres et les histoires d'un soir, c'est pas, je crois pas que ce soit fait pour moi. Et après aussi parce que j'ai quand même eu 2-3 expériences pas drôles humainement parlant via ces sites. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient pas soit pas très équilibrés, soit pas très bien dans leur peau qu'elle est là-dessus. D'ailleurs, la preuve, moi j'y suis allé à ce moment-là. Et je sais pas si l'utilisation que moi j'en faisais, elle était. Enfin, je pense que je crois pas que ce soit bien en tout cas.
C'était donc Mathieu qui racontait son expérience des sites de rencontres, 34 ans, c'est assez noir, assez sombre, et en même temps il y a énormément de choses, énormément de phrases clés. Stéphane, première réaction d'utilisateur et de journaliste qui a travaillé sur ce sujet?
Bah, on dirait moi, hein, ça me rappelle des souvenirs ce qu'il a raconté, et je tire à peu près la même conclusion que lui, c'est-à-dire que il arrive dans les sites de rencontres, il trouve ça super, très stimulant, il parle à des femmes qu'il n'aurait pas pu rencontrer, il planifie ses rendez-vous, il y en a plein, c'est une espèce.
C'est assez effrayant cette idée de planifier, à la limite de réviser.
Oui.
Ce qu'on a échangé avec une personne avant d'aller la retrouver parce qu'on fréquente tellement en même temps que c'est
oui, impossible. C'est terrible, mais on s'en rend pas compte tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, on réalise tous nos fantasmes enfouis de libertinage absolu. C'est-à-dire que, sur les sites de rencontres, on peut en effet boire un coup avec une femme différente tous les soirs. Donc, pour peu qu'on ait encore des choses à se prouver de ce point de vue-là, qu'on ait des fantasmes, qu'il y ait des types de corps, des types de sensualité qu'on n'a pas expérimenté, subitement, on peut. Donc, on se dit, c'est génial. Et on se rend pas compte qu'on est en train d'adopter des réflexes qui vont pas nous faire du bien, c'est des réflexes consuméristes et qu'on va se prendre dans la gueule par un effet boomerang, quoi. Moi, j'ai ressenti ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, bah non, là, j'ai un DVD, il me fait beaucoup plus envie que la perspective d'un rapport sexuel. Alors que la sexualité, normalement, c'est une fête, enfin, c'est un événement. Pendant des jours, on y pense, c'est génial, et quand ça arrive, c'est le feu d'artifice, et ça doit être ça.
Mais est-ce que ça, ce sont des expériences extrêmes, la vôtre et celle de Mathieu, ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est une expérience normale?
Je pense que si je remontais le temps et que j'expliquais cette expérience à mes arrière-grands-parents, ils me regarderaient avec des yeux horrifiés. Mais tous mes potes, garçons comme filles, qui sont sur des rencontres, ils ont connu ça, quoi.
Marie, votre regard de sociologue, on a entendu perte de sens, déshumanisante, un regard très froid, sombre sur la société.
Oui, mais ce que je trouvais intéressant dans l'extrait aussi, c'est que la personne décrit aussi au début un grand plaisir. Et ensuite, il y a un peu un discours de
désillusion
sur la pratique. Oui, et que je pense aussi, il faut le remettre dans le contexte de l'époque actuelle où le discours dominant, c'est justement que ces sites déshumanisent, que ces sites, c'est la consommation sexuelle, etc. Et donc, quand une personne est face à un journaliste et en fait, on a eu ces pratiques qui sont pas concédées très bien, une manière de s'en sortir aussi, c'est aussi de dire après, oui, c'était pas bien.
Marc Parmentier.
Moi, ce que je pense, c'est que c'est un enfant gâté.
C'est-à-dire?
C'est un enfant gâté parce que tout ce qu'il décrit, au moins avant la désillusion, c'est quand même pas donné non plus à tout le monde. La capacité d'accumuler tellement de rendez-vous qu'il faille faire un planning, etc., etc. Bon, ça, c'est quand même quand on a un capital de séduction suffisant, Internet ou pas Internet, pour le faire. Il faut imaginer aussi que la désillusion, elle peut arriver le premier soir, c'est-à-dire les premiers soirs où on va essayer de rentrer en contact avec l'un ou avec l'une ou avec l'autre, et la désillusion, elle peut être immédiate et elle peut être d'autant plus amère. Donc, je trouve que c'est un enfant gâté. S'il a été, justement, il a fait une expérience d'entrer en contact avec quelqu'un avant de la rencontrer physiquement, c'est déjà quelque chose de positif. Et ensuite, la question qu'il faudrait lui poser, c'est mais qu'est-ce qu'il cherche? Et on revient à la question de départ de l'objet du désir. Parce que dire qu'il y a une désillusion, dire que finalement c'est pas satisfaisant, c'est forcément en rapport avec une attente.
Mais en fait, ce qu'il dit lui, c'est qu'en gros, il allait mal et qu'il s'est mal comporté, oui, et qu'il a eu un usage.
Apparemment, il va beaucoup mieux maintenant. Donc, on peut penser qu'au bout du compte, ça a quand même eu un petit usage thérapeutique.
On va passer à un second témoignage. Nicolas a 37 ans. Il est né et a grandi et vit à Paris. Il est notaire. C'est à 18-19 ans qu'il a pris conscience de son homosexualité. Avant, il avait une vie sexuelle hétéro. Il fréquentait des filles, sortait avec elles régulièrement. Et vers 21 ans, il trouve un moyen pour approcher le milieu gay. Il commence à utiliser le Minitel. Il vit alors chez ses parents. Et du Minitel, bien entendu, il passe à l'Internet.
Sans Internet, je ne sais pas aujourd'hui si j'aurais pu avoir cette maturité sur ma sexualité et si aujourd'hui je serais marié avec un garçon. Je ne suis pas certain de ça, en tout cas. Je connaissais pas d'homosexuel dans mon entourage et donc c'est un milieu qui me faisait un petit peu peur, ça ne m'attirait pas du tout. Donc je ne voyais pas trop comment effectivement passer le cap, en tout cas essayer. Et finalement, le biais d'Internet a été le média parfait pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement... J'avais la possibilité de parler avec d'autres homosexuels sans avoir à me dévoiler, sans avoir à physiquement me montrer. Et voilà, le fameux écran qui permet d'avoir une certaine distance. Donc ça, c'était pour moi assez salvateur. Et effectivement, au début, ça m'a permis un peu de maturer cette réflexion. Et petit à petit après, ça aboutit à des rencontres, etc.
Vous, votre première intention, c'est de rencontrer des gens et pas uniquement d'échanger dans le monde virtuel.
Alors en fait, c'est assez instinctif, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je l'assumais pas, je savais pas du tout où je voulais aller exactement, en fait. Et je savais pas jusqu'où je pouvais aller. Puis après, j'ai rencontré une personne, puis bon, après, j'en ai rencontré d'autres. En tout cas, moi, il m'a fallu du temps, ça c'est sûr. Et effectivement, c'est ça qui m'a permis, au fur et à mesure, de me construire une identité sexuelle. Même si, malgré tout, après les rencontres, je me disais, c'est pas possible, je vais rentrer dans le rang, je vais arrêter, je vais me remettre avec une fille. Ça, souvent, je me disais ça, malgré tout.
Mais alors, pourquoi c'est en rentrant des rencontres que vous vous disiez que vous alliez arrêter ?
On est protégé par l'écran, on peut aller assez loin finalement par le biais d'Internet en restant sur son clavier. Quand ça se concrétise, c'est finalement assez violent, en tout cas pour moi. Voilà, on prend pas de pincettes sur les sites de rencontres. Hein. On allait rapidement sur des thèmes sexuels. Comme on demande son âge, on demande si on est actif ou passif. Ça, c'est une des premières questions qui sont posées. Ça permet tout de suite de passer à un autre interlocuteur si la réponse n'est pas satisfaisante.
Le fait de s'échanger des paroles comme ça sur les pratiques sexuelles, sur ses désirs, ses envies, est-ce qu'il y a une certaine excitation à écrire et à lire les réponses ?
Oui, bien sûr. Si certaines personnes, d'ailleurs, n'allaient pas plus loin que la relation par Internet, ils se satisfaisaient du fantasme écrit. Parce qu'ils me le disaient. Et puis, certains avaient juste comme pratique d'avoir un échange sexuel téléphonique. J'ai eu plusieurs demandes dans ce style-là, effectivement. Faisons l'amour par téléphone. Ce qui est aussi une réalisation virtuelle de la relation.
Une réalisation virtuelle de la relation, on termine sur cette note, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce témoignage, et peut-être la chose la plus marquante, c'est à quel point Internet, pour cette personne, a pu être un espace, comme il le dit, de liberté, peut-être même de libération, et d'expression de ce qu'il ressentait au fond de lui, Marc.
Oui, et de construction de sa propre identité et d'apprentissage. Alors ça fait penser aussi au rôle d'Internet chez les ados. L'apprentissage de la sexualité, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, mais dans les comportements concrets, réels, l'apprentissage de la sexualité et des relations amoureuses peut se faire grâce à Internet chez les ados, ou là dans le cas de ce jeune homme. Et en effet, ça aussi c'était un peu mon point de départ, c'est-à-dire comment est-ce que c'est possible de ressentir des émotions, et des émotions quelquefois peut-être plus intense, hein, si on va jusqu'au bout de cet espace de liberté, des sentiments amoureux, des sentiments sexuels, des sensations sexuelles, comment c'est possible de ressentir ce genre d'affect, de sensations, en dehors du cadre habituel, et donc simplement en restant à distance. Et la réponse, c'est vraisemblablement que cet élément virtuel, il fait partie tout à fait normalement des relations sexuelles dites normales, y compris physiques, où il y a effectivement une part de fantasme, et aussi des relations amoureuses, où si on voyait absolument à chaque instant les gens exactement comme ils sont, qui est-ce qui tomberait encore amoureux ?
Stéphane, un mot.
Bah, ce témoignage-là est intéressant parce qu'il montre un aspect positif, à mon avis, des sites de rencontres. Il n'y a pas que des négatifs. Là, on a un homosexuel qui est esselé dans sa ville et dans ses traditions familiales. Et grâce à l'Internet, il va réussir à expérimenter comme il faut et à se trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un monde où l'Internet est devenu une zone d'expérimentation libertine totale, on a des gens qui peuvent maintenant, grâce à l'Internet, faire la démarche inverse. Grâce aux sites communautaires, et notamment à Mektoub, qui marche beaucoup, qui permet à des musulmans de se rencontrer sur des valeurs musulmanes. Et j'entends beaucoup de mal de ces sites.
Des chrétiens aussi, hein. Il y a des sites pour les chrétiens, enfin, des valeurs traditionnelles, quoi.
Mais en nombre d'inscrits, les sites musulmans marchent plus. Et ils sont critiqués à cause de ça, parce qu'on crie au communautarisme. Mais pour moi, c'est très bien, parce que ça évite de perdre du temps. Si leurs valeurs ne sont pas celles du libertinage, si leurs valeurs sont celles de la fidélité, de construire un foyer, bah, ils peuvent se rencontrer plus facilement. Donc, qu'on soit dans une quête d'épanouissement libertin ou qu'on soit dans une fuite de ce libertinage-là, l'Internet peut nous apporter des solutions dans les deux cas.
Alors, avec le dernier témoignage, je voulais sortir des sites de rencontres pour écouter un adolescent mineur qui, par définition, ne peut s'inscrire sur ces sites. Je veux aussi sortir de l'amour pour parler d'amitié. C'est un autre sentiment qui est important, qui est constitutif de la vie affective et qui se fait par des rencontres. Donc, on va écouter Raphaël. Il a 15 ans. Il est en seconde dans un lycée professionnel. Il a ouvert son profil Facebook à 12 ans. Il était alors en cinquième. Ses copains lui parlaient à l'époque des jeux qu'on pouvait faire sur Facebook et c'est ça qui l'avait motivé. Au début, il s'est inscrit en cachette de ses parents qui l'ont appris et qui ont rapidement conseillé de prendre un pseudonyme pour se protéger et ne pas donner accès à sa vie privée à des employeurs futurs qui pourraient être tentés de le googliser. Pendant 2 ans, il était ami avec des gens de son collège, puis il a commencé à faire des rencontres de personnes qu'il ne connaissait pas via des groupes. Il y a des groupes sur Facebook. Aujourd'hui, il a environ 300 amis. Il sait, c'est ce qu'il dit, que les 3/4 seront là s'il a besoin d'aide. Il a des amis de tous les âges, de 13 à 40 ans. Il entretient des relations Facebook avec des adultes qui lui parlent de leur métier. Par exemple, un coiffeur, un policier qui lui envoie des photos, des vidéos. Et ça lui a permis aussi de préciser son projet professionnel. Il veut devenir gardien de la paix. Il nous raconte comment il s'est fait des amis sur le seul réseau social qu'il fréquente, c'est-à-dire Facebook.
Ça fait à peu près 1 ou 2 ans, j'ai rencontré des amis comme ça. Et j'ai aussi rencontré une amie sur une page que j'avais créée avec un ami. Et en fait, c'était un jeu d'ajout. Donc en fait, ceux qui aimaient le statut, les deux administrateurs, donc moi et mon ami, on devait les ajouter. Donc cette fille-là, elle a aimé. Et donc je l'ai ajoutée, on a bien parlé, on a fait beaucoup connaissance. Et puis maintenant, bah, on est meilleurs amis. J'ai son numéro de téléphone, on s'appelle souvent. Bientôt, on va essayer de se voir. J'ai un ami, je l'ai rencontré il y a un ou deux mois. Il habite en Guadeloupe. Mon vrai meilleur ami. Alors lui, c'était par hasard. C'était un jour, je m'ennuyais. Et donc, je suis allé voir pas mal de profils Facebook. Et j'ai vu cette personne-là, j'ai regardé son mur. J'ai vu qu'il mettait des statuts bien. Enfin, il m'avait l'air d'une bonne personne. Et après une soirée, donc, on avait vraiment très bien parlé. À peu près 5 heures de suite, il m'a ajouté. C'était lui qui m'a ajouté. Et puis après, on a parlé tout le temps.
Donc, c'est quelles discussions qui ont fondé votre amitié ?
Dans les premiers jours, quand on s'est raconté un peu tous nos secrets, il est aussi timide comme moi, en fait. Donc, on a pu se dire ça par l'intermédiaire d'un écran. Il y a des liens qui se créent plus vite et qui sont plus importants que dans la réalité, pour moi.
Et alors, toi, quelle image tu donnes de toi ?
Je pense que je donne l'image d'une personne sympathique. Donc c'est moi en photo de profil dans ma chambre, tout simplement. Et ma photo de couverture, c'est celle avec des potes à qui je tiens vraiment beaucoup. On a une tête de gentil, quoi. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Facebook disent que je suis vraiment sympa, etc. Donc grâce à eux, en fait, je reprends quand même confiance en moi.
C'était important pour moi d'entendre ce témoignage réalisé par Pauline Mocor, que je remercie encore, parce que c'est vrai qu'en focalisant sur les sites de rencontres, on risque d'oublier que les sites de rencontres, ça n'est qu'un avatar d'Internet et d'un monde en mouvement et d'un monde de communication et de réalité en mouvement. Et c'est ce que ça inspire, ce témoignage. Alors, comme tous les témoignages qu'on a entendus, il peut paraître extrême, mais en même temps, il recèle de beaucoup de vérités qui sont partagées par énormément de personnes et qui sont étonnantes, frappantes, choquantes, parfois amusantes pour ceux qui ont connu un monde aussi avant l'Internet. Merci à tous les trois. Je vous propose d'applaudir nos invités. Merci aussi à Pauline Mocor, à Nicolas, Mathieu et Raphaël, nos témoins. Merci aux équipes de la BPI. Merci à vous aussi, le public, d'être venus nombreux et d'avoir suivi aussi attentivement. À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 354 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Julnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon Decreuse et Ziad Malouf. L'équipe de l'Atelier s'unit à moi pour dédier cette émission à Tofik Ben Saoud. Ce jeune Libyen de 18 ans a été assassiné le 19 septembre dernier à Benghazi. Tofik était un contributeur régulier de Libya Blog, la plateforme de blogging lancée par les Observateur de France 24 et l'Atelier des médias RFI en 2012. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter, nous commenter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.